du Coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Eh oui, le Coq à l'âne, le retour, numéro 740 dans cette nouvelle version. Vous retrouvez désormais une fois par mois ce Coq à l'âne en podcast sur alpe1.com avec notre invité. Aujourd'hui, c'est Rémi Roux qui est là, conseiller départemental de l'Argentière. Bonjour Rémi.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Nous avons les Coqualiens qui sont là aussi, Bruno André, qu'on avait déjà...
Bonjour à tous.
On avait déjà croisé donc il y a quelques semaines, et puis deux qui n'étaient pas là depuis longtemps et qui nous ont rejoints avec grand plaisir. C'est Michel Roussel, mon Mimi, bonjour. Et mon Jeannot, Jean-Coin.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien les gars. Bon, alors on a notre invité Rémi, hein, conseiller départemental actif, hein, et pas que sur les réseaux sociaux. Des communiqués réguliers. Ouais, tu es un vrai communicant quand même, hein. T'as envie de faire savoir ce que tu fais pour ton département et ton canton. Hein.
Oui, alors sachant que je communique pas sur tout ce que je fais.
Heureusement, hein, parce que des gens, là, j'ai fait la liste.
On se doit de rendre des comptes quand même à nos électeurs. C'est pas un chèque en blanc qu'on signe pendant 6 ans et puis au bout de 6 ans, on revient pour les élections suivantes. Non, il faut quand même rendre des comptes, il faut expliquer ce qu'on vote, ce qu'on fait et où on va. Il faut rendre des comptes comme... à nos citoyens, parce que c'est eux finalement nos patrons. Voilà.
Ouais. Et puis il faut préparer l'élection d'après.
Et voilà, un c'est ce que j'allais dire. Voilà. Et oui, le clientélisme, tout ça et tout. Hein. C'est... Alors le 11 novembre, j'ai regardé ce que tu avais fait. Bah, comme tout le monde, hein, tu es allé au monument aux morts, voilà, incontournable. Hein. Tu en as profité pour nettoyer le cimetière par la même occasion. Hein. Bah oui, puisque c'était la réfection des allées du cimetière.
De quoi ? Ah oui, effectivement.
Attends, mais tu crois que je suis pas au courant de ce que tu as fait ?
Disons qu'effectivement, dans le cadre des subventions des deux communes, on a aidé une commune, en l'occurrence Champsella, qui avait des problèmes pour accueillir des personnes décédées, et puis pour un cimetière qui est un peu en déshérence. Donc là, effectivement, avec le nouveau maire Jacques Ponce, et puis on a monté des dossiers, et on l'a aidé à travers nos enveloppes cantonales de fonctionnement, d'investissement. Il faut savoir que souvent, sur les projets de la commune, c'est pas des projets fous hein, sur nos petites communes. C'est des choses en général, c'est la voirie, c'est...
C'est des petites choses qui font plaisir au quotidien aussi, voilà.
Ben, quand vous allez vous rendre au cimetière, soit pour la Toussaint, soit pour visiter un proche, c'est toujours bien de marcher dans des allées, et puis surtout une obligation légale d'accueillir nos morts dans nos cimetières, c'est une question de respect.
Et alors, j'ai vu aussi que tu t'étais, alors ça, bravo, hein, tu t'es retapé le bouquin sur les Alpes du préfet de la Doucette, ça c'est courageux quand même, parce que là aussi, franchement oui. C'est il faut se le faire quoi. T'es passé aussi chez Monts et Merveilles, lauréat du prix spécial du jury pour la construction d'un atelier de menuiserie à Saint-Martin-de-Carrières dans le cadre du Grand Prix départemental de la construction, de l'aménagement et de l'architecture durable 2022 organisé par le département et le CAUE.
C'est une longue phrase.
Hein, c'est, voilà.
Fou. Oui, c'est un prix qui valorise les constructions à la fois les entreprises qui ont des bâtisses très belles. Alors le Pays des Écrins, en l'occurrence l'Argentière, a une tradition dans le métier du bois, et cette entreprise effectivement fait la fierté du territoire parce qu'elle offre, que ce soit à l'intérieur de ses locaux ou à l'extérieur, une visibilité, une durabilité architecturale de construction, et je pense que c'est bien aussi que le département, et c'est le cas avec ce prix qui a été décerné, de valoriser ces entreprises et ces constructions. Et encore une fois, le Pays des Écrins et l'Argentière ABC, alors moi je suis fils de menuisier ébéniste, je ne suis pas objectif, mais on est quand même une plateforme, une vitrine des métiers du bois, et ça compte bien perdurer là-dessus.
Et puis ouais. Alors, t'es passé aussi au Chalet du Soleil à Briançon, et puis évidemment, t'as pas pu t'empêcher de prendre la parole lors de la séance publique du conseil départemental. Ah bah, hey, dès qu'il y a un micro, hein, t'es mort là. Hein. Alors bah, je propose d'écouter ton intervention. C'était il y a combien de temps ça? C'était il y a un mois.
Oui, à peu près.
Grosso modo. Allez, on t'écoute.
Vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Oui, effectivement, il faut prôner une écologie de raison et de bon sens. Effectivement, c'est la seule vraie écologie. Je suis d'accord. Il n'y a pas beaucoup d'ordre du jour aujourd'hui. Juste une chose qui n'est pas du fait du département, mais qui est la revalorisation par rapport au Ségur de la santé des aides-soignants, de tous les métiers sanitaires. Je crois que c'est une très bonne nouvelle. Alors l'État finance grassement, pour le moment en tout cas, cette hausse. On verra pour la suite. Pas tout, effectivement, il y a une partie, le volet Castex, qui est financé à 70% par l'État. C'est très important, comme tu l'as dit, Ginette, parce qu'on a beaucoup de mal à trouver aussi de la main-d'œuvre dans ces secteurs d'activité, et la population vieillit. Et ça, c'est un bon signal qui est envoyé. Donc ça, je pense que c'est suffisamment important pour le rappeler et pour attirer du monde dans ces filières. Et puis aussi, sur un autre sujet qui n'a absolument rien à voir, je voulais vous remercier, Monsieur le Président, pour la rencontre qui a été faite avec les élus de la Roche de Rame, en présence de Marcel Canin. Et je voulais vous remercier parce que vous avez fait preuve d'écoute et une discussion avec du pour et du contre. Et puis je pense que vous avez su comprendre les enjeux et je voulais vous remercier pour cette rencontre.
Alors, je voudrais revenir justement sur cette...
Les élus, les maires de ce département.
Il va se taire, le président. Je voudrais revenir sur ce dernier point. C'était quoi cette rencontre à la Roche de Rame?
C'était
Me dis pas que c'était pour la déviation.
Comment t'as deviné? C'est effectivement une rencontre qui a eu lieu à la demande du maire de la Roche de Rame concernant la déviation de la Roche de Rame. Donc il y a eu effectivement une discussion intéressante sur lequel, dans le cadre aussi, parce que c'est aussi d'actualité, sur le transfert des routes nationales au département, c'était de savoir quel était le niveau d'engagement du département pour cette déviation. Globalement, alors je veux pas trop m'avancer.
Mais... Je regarde la tête de Bruno.
Bruno, je le sens un peu.
Tu vas réagir là-dessus dans un instant. Je laisse terminer.
Juste, effectivement, je ne vais pas trop avancer, mais il y a eu plutôt. Peut-être le département va se prononcer sur la question de la déviation. Moi, ça a été une promesse de campagne aussi. C'est-à-dire que moi, auprès des habitants du canton, ça a été une réelle promesse de campagne. Et puis, il faut savoir que la Roche de Rame, ce n'est pas juste dévier un village de 900 habitants, c'est dévier. Un village sur lequel il y a beaucoup de bouchons en été, hiver également, mais c'est la porte d'entrée du Grand Briançonnais. Mmh. C'est-à-dire que j'ai envie de vous dire, c'est pas que dévier un village de 900 habitants, c'est créer une porte d'entrée, une porte d'ouverture sur tout le nord du département, et d'un point de vue touristique et économique, ça a un enjeu assez certain.
Bruno ?
Bah, la Roche de Rame, c'est un vrai verrou sur le désenclavement de l'axe Marseille-Turin, quoi, ou via Gap, quoi. Mais le problème, tu dis l'engagement du département par rapport à la déviation, avant de parler des moyens, est-ce qu'il ne faut pas parler techniquement du tracé? Parce que moi j'ai l'impression que, pour avoir vécu ça il y a quelques années, un petit peu, sur le tracé, il n'était pas vraiment défini. Est-ce qu'il est arrêté aujourd'hui, le tracé?
Alors, très bonne question aujourd'hui.
Oui, c'est une bonne question.
Et je vous remercie de me l'avoir posé. Tiens, et d'ailleurs, si vous regardez l'arrêt sur image, vous ne trouvez pas qu'il ressemble à Jacques Chirac? Hein, un petit peu.
Lequel des deux?
Non, Rémy Roux. Écoutez, il ressemble à Jacques Chirac.
Écoutez, je remercie d'avoir posé cette question.
Non, mais oui, j'ai
il aime la tête de veau.
Il y a une étude en cours qui donne le tracé. Il y a eu plusieurs scénarios de tracé, effectivement. Il y a un tracé qui a, disons, l'approbation de la mairie de la Roche de Rame, qui a été présenté au président du département. Et sur lequel il y a des études en cours, notamment faune et flore, recensement de faune et flore, hydraulique aussi, parce qu'on est au bord de la Durance, il y a aussi le lac de la Roche de Rame, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Après, il y aura la question du coût qui va se poser, la question des financements, notamment dans le cadre des contrats plan État-région. Là, on en est à l'étape de l'étude.
Il y en a eu
cours.
Des études quand même, non ?
Il y en a une, celle-ci, on va dire que, étant donné le côté sérieux de l'étude et les moyens engagés, je peux vous assurer que ce n'est pas une étude en demi-teinte. C'est réellement une étude sur laquelle il faut déterminer le tracé, les conséquences que ça peut avoir. Et puis, après, il y a la question du nerf de la guerre, c'est le coût. Aujourd'hui, ce qu'on demande au département, qui pour le moment n'est pas partie prenante, c'est l'État et la région, pour ce genre d'infrastructure, c'est de se porter solidaire auprès des habitants du pays des Écrins, du canton de l'Argentière, de la BC et de la mairie de la Roche de Rame, pour dire qu'effectivement, sur le principe d'une déviation, le département se porte solidaire. Alors, même si effectivement on a compris que pour le moment, et je dis bien pour le moment, je ne sais pas si on va aborder la question de la transfert des routes nationales.
Ah non, mais non, sinon on va se faire chier au bout d'un moment. Là, ça va déjà, mais là, je te trouve un peu longué. Donc, j'aimerais bien que tu accélères un peu le niveau. Bah, là,
écoute, hein. je vais faire la partie résumée. Mais pour le moment, on demande juste au département d'être solidaire de cette initiative. C'est plutôt bien parti. Et après, le reste, c'est la région. Et puis,
le tracé n'est pas arrêté.
Et le tracé n'est pas arrêté.
Il y a encore une fois, il y a eu trois scénarios de, qui ont,
oui,
comme je te l'ai
ça,
dit.
C'est pas vraiment nouveau.
Jeannot,
Est-ce que vous avez prévu un côté archéologique de prévention?
Oula.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que si on creuse et qu'on trouve des trucs, c'est ça?
Ça vient toujours, ça. À un moment donné, ça arrive, ça.
Ramas.
Alors, justement, Jean, sur l'un des scénarios qui passait du côté de Champsella, donc qui traversait deux fois la Durance, n'est pas un scénario qui a été retenu pour la simple et bonne raison que c'était trop coûteux, trop long. Quand vous traversez deux fois la Durance, il y a des ouvrages, etc. Ouais. Donc, d'un point de vue archéologique, si tu veux, pour le moment, on passe sur un rocher qui s'appelle le rocher de la Cala. On longe la Durance, c'est moins d'un kilomètre, hein, la déviation de la Roche de Rame, hein, c'est pas un gros ouvrage. Et on rejoint la route nationale sur la plaine, ce qu'on appelle les Frairies. Il y a très peu de chances d'avoir des découvertes archéologiques sur ce plan-là. Parce qu'on ne passe pas justement, comme tu viens de le dire, sur le site de Rame, qui était une ancienne station romaine, recensée d'ailleurs par notre cher préfet La Doucette.
Est-ce que tu as pensé aux grenouilles protégées?
Au quoi, aux grenouilles protégées?
Oui, parce que si ça se trouve, tu vas traverser et c'est le passage de la grenouille. Alors,
il a dit qu'il est, c'était pas alors, un écologiste intégriste tout à l'heure.
Ah, attends, il y a Jeannot qui veut rajouter un mot.
C'est que cette déviation de Rame.
Parle bien devant ton micro et parle fort.
La Roche de Rame est évidemment prévue depuis des années, mais ce ne se fait pas. Ça me rappelle un petit peu mon étude de Clermont, qui était également en souffrance, parce que il faut voir un peu le chantier lorsque vous passez en plein été dans ces agglomérations. Mmh. Et le martyr des riverains, quoi. Alors c'est vrai qu'il faudrait essayer d'abréger leur souffrance, et en même temps, la souffrance des automobilistes qui sont obligés de faire la queue bien souvent. Alors qu'en définitive, c'est des, on va dire, des déviations qui ont un caractère raisonnable sur le plan du coût. Alors il faudrait trouver de l'argent, quoi.
Jean, il y a 70% des maisons au bord de la nationale qui n'ont pas d'habitants. C'est-à-dire qu'on a un prix de l'immobilier qui dégringole à la Roche de Rame. Pour répondre à la question un peu ironique de Thierry, effectivement, on n'est pas à l'abri de trouver dans le recensement de la faune et de la flore une fleur sacrée,
ou
effectivement la grenouille, je ne sais pas comment tu l'appelais.
Non, je suis...
Pour le coup, évidemment qu'il y aura un certain impact. Moi, je préfère qu'on modernise notre National 94, qu'on permette, parce qu'il faut savoir que il y a déjà eu des morts sur cette embouchure de la Roche de Rame, donc la sécurité des riverains. Il me semble que c'est la meilleure des écologies, non ? Préserver aussi nos riverains. Mmh. Puis aussi améliorer, encore une fois, l'accessibilité sur le nord du département. Alors certes, il y aura peut-être un coût écologique. Moi, je pense que c'est pas pour... Moi, je suis, encore une fois, je suis très concerné par les questions écologiques. Pour le coup, je pense que il vaut mieux réfléchir sur peut-être la stabilisation ou la baisse du parc automobile plutôt que d'améliorer les routes. Améliorer les routes, c'est améliorer la sécurité des riverains, des usagers, et faire revivre un peu nos villages, un peu, qui souffrent de tout ce trafic.
Allez, on passe en revue les sujets qui ont un petit peu excité la toile et les médias pendant ce mois de novembre. Bon, alors évidemment, incontournable, les gars. La Coupe du Monde. Hein, la Coupe du Monde. Alors, et Rémi qui est un fan de foot, il doit être un peu gêné aux entournures. Bah oui, fan de foot, un peu écolo aussi, du coup, t'as le cul entre deux chaises là, non? Un petit peu quand même, hein.
J'ai été étonné de l'Audimat était plutôt bon en quantité, pas en part de marché, mais en quantité, il était...
Bah, part de marché, 46%, 12,5 millions de personnes qui ont regardé le match, c'est le plus gros score de TF1 depuis le début de l'année.
En part de marché, c'est beaucoup moins
46...
qu'il y a 4 ans.
Oui. Non mais il y a 4 ans c'était à midi
en été. Voilà, oui,
donc c'est un peu différent. Mais là 46%, on était à 60 et quelques pourcents à l'époque, il y a 4 ans. Mais c'est le même chiffre, 12,5 millions de personnes ont regardé.
Tout à fait, je n'ai pas regardé le match, pour être très sincère. Évidemment que l'attribution de cette Coupe du Monde me choque, mais ça date pas d'hier. Ce qui me choque dans le même niveau, c'est l'évolution du football, évidemment, parce que moi je suis un amoureux du football, comme tu l'as dit. Tous les dimanches, je suis au bord des stades pour voir les matchs de district. J'ai envie de dire, c'est la quantité sans la passion. Je me suis posé la question l'autre jour, est-ce que l'équipe de l'équipe de France 2022, est-ce qu'elle battrait si elle rencontrait l'équipe de France de cette fameuse Coupe du Monde 82 à Séville, etc.
Ouais.
Batiston, Platini.
Oui.
Je pense que oui. La réponse est clairement oui, c'est qu'aujourd'hui on a des bêtes de machines, on a des centres de formation, on a tout ce qu'on n'avait pas en 82.
C'est plus le même football.
C'est plus le même football, mais la question elle n'est pas là.
Ouais,
la question est de dire qu'effectivement on explose toutes les statistiques, mais en fait c'est la quantité sans la passion. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, évidemment qu'ils sont meilleurs qu'il y a 40 ans, les footballeurs. Mmh. Mais j'ai envie de dire.
Mais c'est pas la question que je te posais. Hein. C'est pas la question que je te posais. Là, je te posais si tu étais le cul entre deux chaises avec toute cette polémique qui existe sur le fait de politiser aujourd'hui le sport. Et d'ailleurs, il y a notre ami, que tu aimes bien d'ailleurs, président de la République, Emmanuel Macron, qui a fait cette déclaration au sujet. Je vous propose de l'écouter.
Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. D'abord, ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue les événements. C'est quand on attribue des Jeux, qu'ils soient des Coupes du Monde ou des Jeux Olympiques, qu'il faut, en toute honnêteté, se poser la question. Et que la question soit climatique ou qu'elle soit des droits de l'homme, il ne faut pas se les poser à chaque fois que l'événement est là. Je parle en permanence au Qatar, à toutes les autres puissances, de tous les sujets, en toute transparence. Et nous avons des relations à la fois franches, amicales et constructives. Et donc, je pense que c'est une très mauvaise idée de politiser le sport, quelles qu'en soient les choses. J'en parle pour la Coupe du Monde là, j'en parle aussi pour les Jeux Olympiques. Je ne sais pas dans quel contexte les Jeux Olympiques que nous aurons organisés en France se feront sur le plan géopolitique. Mais il est sûr que la vocation de ces grands événements, c'est de permettre à des athlètes de tout pays, y compris parfois de pays en guerre, de pouvoir faire vivre le sport et de trouver aussi par le sport des truchements, des manières de discuter là où des gens n'arrivent plus à se parler.
Alors ?
En fait, je le vois se réjouir d'avoir ce type de question, de dire que c'est au moment de l'attribution qu'il faut réfléchir.
Ah oui, pour ça le coup, c'est quand même la moindre des choses.
Au moment de l'attribution, il n'était pas là, donc il peut s'en réjouir.
Non, mais
de
bien sûr, mais ceux qui gueulent aujourd'hui, au moment de l'attribution, on ne les a pas entendus. Et je te ferai remarquer, moi je ne veux pas venir en aide à Emmanuel Macron hein, sur le sujet, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup moins de polémiques lorsqu'on avait attribué la Coupe du Monde à la Russie et les Jeux Olympiques à Pékin. Il n'y a personne qui a moufté, ou très peu. Alors que là, aujourd'hui, on nous fait tout un pataquès sur un événement qui a donc été attribué il y a 12 ans.
En voilà. 2010.
En 2010. C'est ça, je ne comprends pas, moi. C'est cette folie qui existe aujourd'hui, alors qu'il y a 12 ans, à la limite, il y a 12 ans, on était plus inquiets sur le fait qu'on allait jouer pendant une période où il allait faire très chaud. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils l'ont décalé au mois de décembre. C'était ça, l'inquiétude. Et le fait que les championnats allaient être chamboulés si on le mettait en décembre, ce qui est le cas aujourd'hui. Enfin bref, voilà, il y avait beaucoup de questions sportives, mais questions écologiques, questions sociales, il n'y avait que dalle, il n'y avait rien.
Moi, je voudrais revenir sur le fait qu'en fait, tout se joue à l'attribution, effectivement, il a raison Macron, tout se joue à l'attribution. Mais à un moment donné, il faut que les cahiers des charges de l'attribution évoluent au niveau des droits de l'homme, au niveau de l'impact écologique, et qu'on soit capable de sanctionner. Moi, je suis choqué, là, ce qui s'est passé au Qatar, quand même. Quand le Qatar dit « Ouais, écoutez, c'est pas que je veux faire la promotion de l'alcool dans les stades, mais à un moment donné, quand on t'autorise à mettre des tireuses à bière à la sortie ou à l'entrée des stades, et qu'après, à 8 jours, on te les enlève, là, il y a un problème.
Bah oui.
Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on se déculotte. Ben, on fait rien.
Ben
on
non. Fait rien. Qu'est-ce que tu veux faire ?
Qu'est-ce que tu veux faire ?
Je vais dire, ben non, on va pas les supporter parce qu'il n'y a pas de bière.
Bon. Eh ben, tu dis non au pays organisateur. Tu lui dis, vous êtes engagé là. Hein,
là, c'est la FIFA, mais la FIFA, si tu veux.
Ah oui, mais oui, mais voilà. C'est tout le problème. Après, c'est pareil, sur l'attribution, on met un cahier des charges. On dit, les gars, il faut que tous les projets soient écologiquement corrects. On valide ou on valide pas au cours de la. Des travaux. Mmh, on suit. Mmh. On n'attend pas l'ouverture pour faire un procès. Hein. Mmh. Pareil pour les droits de l'homme. On aurait pu se poser la question quand même. Et moi, j'ai vu plein de reportages à l'époque sur les Népalais qui partaient là-bas,
ouais,
etc.
Ouais, exact.
Ça sort pas du. On le sait, on le savait.
Et ça a commencé il y a 7 ou 8 ans. Michel, vous voulez intervenir.
Je finis juste. Ouais. On pourrait aussi se poser la question. Quand on fait qu'on attribue le projet à une nation, savoir ce qu'ils vont faire des infrastructures.
Bah les stades vont être démontés offerts à d'autres pays, d'après ce que j'ai compris.
Tu démontes un stade et tu l'offres, mais tu le portes comment, en bateau, en avion, tu fais comment?
Ah, ils ont les moyens.
Non.
Ah ben, si je te dis.
Posons-nous la question de savoir ce qui s'est passé au jeu d'hiver en Russie.
En Russie, oui.
Posons-nous la question de savoir ce que sont devenues les infrastructures à Pékin des jeux d'hiver et d'été. Je veux dire, et c'est peut-être là qu'on a le sport est peut-être un vecteur pas de propagande, mais de faire évoluer les choses. C'est ça qu'il faut se poser comme question, c'est pas faire des procès quand la messe est dite, quoi.
Ouais, Michel. Attends, Michel et Jeannot après. Michel.
En ce qui me concerne, moi je partage ce que Emmanuel Macron a dit, et deuxièmement, on peut ne pas être d'accord avec ces pays-là, c'est pas notre culture, c'est pas notre manière d'agir, notre culture à nous c'est la démocratie, et on veut l'imposer de toute manière, et on a du mal à partager les idées des uns et des autres. Cela dit, le sport dans ce contexte, ce sont des ambassadeurs. Et c'est aussi une manière d'imprégner, d'interpréter les choses et de sensibiliser ces pays, ces décideurs, à un moment donné, peut-être de se rapprocher de notre manière de penser, d'agir. Et nous, on a aussi l'effort aussi à fournir. Alors c'est vrai, on peut tout fustiger. Il y a effectivement, en 2010, il y a des décisions qui ont été prises. Le réchauffement climatique intense, on le connaît depuis 3-4 ans. On ne va pas considérer qu'on ignorait tout antérieurement, mais aujourd'hui, on touche du doigt de plus en plus et ça s'accélère. Mmh. Donc, on est de plus en plus sensible sur ce phénomène dont on ne sait même pas comment on va régler le problème. Et aujourd'hui, effectivement, parce que le Qatar a de l'argent, parce qu'effectivement, il est outrecuidant de faire ce qu'ils font. Là, ils font, je ne sais pas combien, 7 stades, ils ont construit 7 stades, dont le critère qui a été aussi, à un moment donné, en faveur de la décision, c'était de monter, de démonter des stades pour les offrir, effectivement, voilà, à des pays en voie de développement. J'entends ce que tu dis, Bruno. Mais dans tous les cas, si tu le construis ou si tu le transportes, il y aura toujours un impact écologique. Par le transport. Donc c'est pas mal. L'idée, c'est de l'argent aussi.
Tu es artisan. Est-ce que tu imagines démonter un stade et l'offrir à quelqu'un?
Toi et moi, on n'est pas compétents. Toi et moi, on n'est pas compétents pour le faire.
C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font.
Ils ont bien, à un moment donné, déconstruit des châteaux et les ont reconstruits. Et oui, donc on est capable de faire des choses.
Je te ferai remarquer qu'en Égypte, Abou Simbel a été déplacé pierre par pierre, parce qu'il craignait l'eau et les crues.
Relevé, en fait.
Il y avait des barrages. C'est pour te dire que Abou Simbel, c'était autre chose qu'un stade de foot en kit. Hein. C'est du Ikea, tu sais. Du Ikea.
Non, mais là, on en reparlera, Thierry. Là, si Dieu nous prête vie, on en reparlera un peu.
Ça a été un élément de décision. Je veux dire, c'est vrai, ils ont été relativement bons pour convaincre. Et Yannick.
Yann
qui a effectivement signé quand il a dit ok, c'est très bien, moi je suis pour. Bon, c'est pas aujourd'hui, il dit j'ai fait une grosse connerie. Ben, peut-être, sauf qu'aujourd'hui on est là ou là, et comme tu le disais, quand il y a la construction des stades et tout, ben, et pourtant, oui, effectivement, Vinci est retoqué parce qu'il a un peu malmené les ouvriers qu'il employait. Ouais. Peut-être qu'il avait une pression aussi pour faire les travaux, finir les travaux et tout. Quand on regarde tout ça, on ne vaut pas mieux, nous. Dans d'autres secteurs d'activité, on ne vaut pas mieux. Il faut qu'on regarde aussi qu'on va aller dans notre porte. Moi, je suis convaincu, effectivement, d'une manière globale, que la mondialisation apportera à un moment donné une compréhension commune. Je me trompe parce que je suis un ignorant total. Mais pour le coup, je me permets à un moment donné, quand tu as une forme de lucidité et un avis, pareil qu'en France, on a le droit de donner son avis. Bah, écoutez, je vais le donner, même s'il est erroné et s'il n'a aucun sens. Les plus érudits trouveront peut-être un intérêt à entendre ça.
Non mais Jeannot,
la problématique de 2010 est complètement différente de la problématique de 2022, c'est-à-dire que le cahier de charge qui a été rédigé en 2010, il ne tenait pas compte d'un certain nombre de facteurs, donc il faut acter tout ça. Et c'est peut-être une connerie qu'on a faite d'accepter cette candidature, mais maintenant c'est fini, quoi.
Bah oui, le problème c'est que voilà, on ne va pas dire bon bah deux jours de lancement, bon bah allez, on le fait pas, moi, quoi, c'est trop tard.
Qui me préoccupe,
mais ça peut nous donner des idées pour l'avenir.
Mais vous parlez beaucoup d'écologie, moi je vous parlerai plutôt des droits de l'homme qui sont en régression constante tout au long de la planète, à part cet îlot que nous avons. Les pays occidentaux, donc ça c'est la problématique la plus grave aujourd'hui.
Mais tu as raison.
Et que même si tu peux pas boire de bière à l'entrée du stade, c'est pas un problème.
Oui, c'est pas bien grave ça.
Non,
hein.
Mais c'était un détail. Hein, mais
bien sûr.
Moi je veux revenir à ce que tu disais, que nous on n'est pas forcément très vertueux. Moi je suis désolé, on a organisé plusieurs grandes manifestations. Bon, la Coupe du Monde de 98, les JO plusieurs fois, etc. Nous on n'a pas laissé de friche. Je veux dire, les installations, on les réutilise aujourd'hui. Elles ne sont pas en friche.
Je ne sais pas si le tremplin de Grenoble, il sert encore.
Ah il ouais. n'y a que les... Voilà.
Je voulais le dire.
Et la piste de bobsleigh, peut-être.
Les points durs, c'est les pistes de bobsleigh et les tremplins. Mais après, le reste...
Le stade de glace est opérationnel, je pense.
Il est toujours opérationnel. C'est là que jouent les brûleurs de loups. Donc, je vais dire... Au contraire, ça dans certains... Si c'est bien géré... si c'est bien géré, ça favorise l'élan sportif. Alors, c'est sûr qu'il faut parfois aller dans des pays un petit peu exotiques pour un peu les aider, mais faut, à mon avis, il ne faut pas faire n'importe quoi et il faut blinder les cahiers des charges et être en mesure de les faire appliquer.